Bonjour, bienvenue sur Radio B 90 FM. Les bonnes ondes pour votre chronique du passé. Bonjour Gilliane.
Bonjour Martine. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons à nouveau à Césaria. C'est pour évoquer Jérôme Lalande, l'astronome ?
Nous pourrions, en effet. Il avait une maison à Césaria, et y venir à pied depuis Bourg n'était pas une contrainte pour lui.
Alors, nous sommes à Césaria pour quel motif ?
Pour la fête la plus emblématique, la Grand Margot. Rémi, président des Chroniques de Bresse, nous a suggéré de partir à sa recherche.
Eh bien, nous en parlons. Après quelques notes de la polka du père Frédéric, une musique du répertoire du vielleux Frédéric Vuillot de Courmangou.
Nous sommes donc à Césaria et nous évoquons la Grand Margot, cette fête du deuxième dimanche d'octobre. Dites-nous ce qu'est la Grand Margot.
Dans une région autrefois couverte de vignes, c'est la fête plus qu'ancestrale des vendanges. Elle s'est instituée au fil du temps, mais auparavant, elle n'était pas à date fixe. On attendait la fin des vendanges, qui se terminaient entre fin septembre et fin octobre, selon le mûrissement du raisin. C'était la Revole, une fête entre voisins, au sein du hameau ou de la commune.
Un peu comme la Revole des moissons en Bresse. Après la principale récolte de sa contrée, on s'accorde un moment de repos et de fête. Cette Revole de Césaria prend le nom de Grand Margot. Mais quand et pourquoi ?
Les bonnes questions. Comme ailleurs, pour d'autres fêtes, il y a la mémoire collective et les archives qui ne concordent pas toujours. La fête daterait de 1841, et la première Grand Margot serait la fille, Marguerite, d'un aubergiste, futur maire de Césaria. À moins que Margot ne fût la servante de notre Jérôme Lalande. Une servante prénommée Marguerite, qui servait les invités du déjà célèbre astronome.
Cette hypothèse est-elle vérifiée par la lecture des journaux anciens, comme le Courrier de l'Ain ou le Journal de l'Ain ?
Et non. Le terme de Grand Margot n'apparaît qu'en septembre 1858, au même moment, un jour près, sur nos deux journaux locaux, mais sans la moindre explication. Ils écrivent simplement que l'abondance de la vendange fait repousser la fête d'une semaine à Césaria.
Donc, qu'elle existait auparavant ?
A priori, oui. Dans les années 1820, par une autre année d'abondance, un article signale que la récolte laisse de belles espérances et les villages fêtent dignement la fin des vendanges. Bien sûr, en période de récolte décevante, on s'abstient de faire la fête.
1858, nous sommes sous le Second Empire, une période favorable. Et comme nous l'avons évoqué le mois dernier, les saisons sont nettement marquées avec des étés chauds.
Et la vigne aime la chaleur pour s'épanouir. Si ces bourgeons n'ont pas été détruits par une gelée printanière, ce qui arrive quelquefois. Lorsque les belles années se suivent, la fête se répète.
Revenons à notre question. Qui est la première Margot à être devenue Grand Margot ?
De rares récits évoquent que la fête daterait d'avant la Révolution, à un moment où une Marguerite, surnommée Margot, était serveuse dans un café à l'entrée du village. L'affirmation est difficile à vérifier. Il faut nous résoudre à ne pas identifier une jeune fille particulière, prénommée Marguerite, qui serait devenue la Grand Margot.
Il existe peut-être une autre possibilité. Le roman « La reine Margot » d'Alexandre Dumas, y a-t-il un rapport ?
Rien ne permet de l'affirmer, mais le roman paraît en 1845. Il connaît un grand succès et il est évoqué dans la presse locale. Alexandre Dumas en fait une adaptation pour le théâtre, un drame historique en 5 actes, joué à Bourg en octobre 1853 avec la participation d'acteurs bressans. Tout le monde ne lit pas. Tout le monde ne va pas au théâtre. Mais la bourgeoisie locale en a parlé autour d'elle. De là à établir un rapport.
La Grand Margot existe depuis un siècle et demi. Et depuis, personne n'a donné une explication satisfaisante.
C'est étonnant. Mais s'il y avait eu une date précise de création, le nom de la première Grand Margot aurait été fatalement cité dans les journaux.
Pour un journaliste, la Grand Margot serait tout simplement le symbole impersonnel d'une fête populaire dédiée à l'après-vendange.
Oui, il exprime son sentiment à propos de la Grand Margot, qu'il identifie à chaque servante dans les cafés. Je le cite. « C'est la muse de nos coteaux, du Revermont et du Bugey. C'est elle qui amène sur les lèvres des francs buveurs les drôles et sapides de Gaudriol, les exclamations du terroir, pittoresques en leur naïveté. C'est elle qui fait nos vignerons serviables avec, pour devise, le bon vin réjouit le cœur de l'homme. » Cela date de 1897.
Nous constatons ainsi que cette fête de la Grand Margot aurait été adoptée par des villages vignerons du Revermont, mais même du Bugey. Nous avons relevé une supposition assez savoureuse qui expliquerait l'ampleur de la fête, prise durant la période du XIXe siècle où les vendanges étaient abondantes.
Un chroniqueur affirme que, pour écouler leur excédent de vin, les vignerons auraient invité les gens de Bourg à venir le boire, au cours d'une fête, bien sûr. À Césaria, avec un peu d'ironie, on les appelait alors les Bourgnati.
L'anecdote est amusante, mais vraisemblable. Nous avons l'équivalent avec le Beaujolais nouveau, une opération de communication pour écouler une partie de la production. Revenons à la Grand Margot, à ses festivités pour une foule nombreuse et à ses traditions culinaires.
La Grand Margot a donc lieu à l'automne, au moment de la migration des grives. Celles-ci s'arrêtent volontiers dans les vignes pour déguster le raisin mûr. On les chasse alors, à leur passage, avec de grands filets tendus entre les arbres des bois. Cela s'appelle chasser à la pantière, une chasse autorisée durant une période définie. Elle se pratique alors sur les coteaux, de Journans à Césaria.
Et toutes ces grives, ou du moins une grande partie, sont vendues aux restaurateurs de Césaria qui les cuisinent.
Pour les gens qui viennent participer à la Grand Margot. Ils les dégustent avec du vin nouveau, de préférence de Montjuly. Cela devient une tradition, et la fête n'est réussie que si ces grives sont au rendez-vous, leur migration variant parfois. Dans ce vin encore en travail, on trempe aussi, je cite un journal, une de ces délicieuses brioches dont Césaria garde le secret. La fête s'installe comme un rendez-vous automnal immanquable.
Avec des distractions pour tous, une fête foraine et des bals en soirée. Reprenons le même journal. Les orchestres dans les salles de bal convient la jeunesse et l'âge mûr aux saines et rigoleuses réjouissances. La foule envahit les rues du centre-village. Tout ceci nécessite une réglementation, surtout que la fête s'étend rapidement sur 2 jours.
Oui, il faut coordonner les divers déplacements et emplacements. Le maire les réglemente tacitement ou par arrêté municipal.
Notre collègue de Césaria, François Dufour, nous a communiqué celui de 1869, bien rédigé comme une belle page de littérature française, sans doute l'œuvre de l'instituteur secrétaire de mairie. Nos auditeurs pourront lire le texte intégral sur le site des Chroniques de Bresse.
Mais citons tout de même un extrait. La veille, tous les habitants, sans exception, balayeront ou feront balayer le devant de leur maison et enlèveront les dépôts de matériaux, les ordures et immondices qui pourraient s'y trouver. Les marchands de menus merceries, de quincailleries, de bimbloteries, les teneurs de jeu autorisés, les saltimbanques, batteleurs, chanteurs publics et autres individus de professions analogues ne pourront exercer leur industrie pendant la fête qu'après s'être munis d'une permission du maire.
Cela donne une idée de la fête et des animations. On constate que Césaria se met en 4 pour accueillir ses hôtes. Mais qui dit foule dit aussi débordement.
L'arrêté municipal précise, je cite, « À l'occasion de la fête, l'heure de fermeture des cafés est différée jusqu'à minuit. Les bals ou danses publiques et l'exercice des industries diverses ne pourront se prolonger au-delà de minuit. » Oui, mais la réglementation ne peut pas tout. Il y a les resquilleurs et les profiteurs. Les jeux de hasard sont codifiés par la loi, mais certains essaient d'abuser de la crédulité du public. Oui, mais la gendarmerie veille. Et l'arrêté ajoute, en cas de querelle, rixe ou tumulte, les auteurs du trouble seront arrêtés pour être statués à leur égard, ce qui appartiendra. Cet article s'applique parfois.
Le règlement évoque toutes les possibilités pour que la Grand Margot soit une belle fête. Avant tout, une fête villageoise pour les familles et les voisins, pour profiter des derniers beaux jours d'après l'été. Elle marque un arrêt pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle reprend une certaine vigueur après, au moment où le vignoble revermontois appartient plus au souvenir qu'à la réalité.
Eh oui, on a besoin de réjouissance après des années de privation. En 1952, quatre personnalités du village créent l'ordre de la Grappe d'Or. Et le rite d'intronisation fait référence aux différents hameaux de Césaria, où le vin était réputé pour sa qualité. Quelques jours avant la fête, la confrérie élit une reine des vendanges, qui paraît de son écharpe et de son diadème, participe au grand défilé avec fanfare et char fleuri. En 1952, la reine défile dans une voiture de marque Torpedo. On lâche dans le ciel une grappe de 50 ballons rouges, symbole d'une grappe de raisin.
Oh, c'est la fête, mais c'est la fête. La fête que nous chantera dans un instant Michel Fugain. Avant de quitter nos auditeurs de Radio B, nos bonnes ondes, pour un mois où ils pourront écouter les podcasts, nous remercions bien sûr Jimmy à la technique, Rémi et François qui ont grandement participé à cette chronique. Et pour nous, au revoir Gilliane.
Au revoir Martine.
Au revoir à tous.
Changer ce matin, je n'y comprends rien.
C'est la fête, la fête.
Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis.
C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde mort et enterré a ressuscité.
À pied.
C'est la fête, la fête.
Le pain et le vin sont gratuits et les fleurs aussi.
C'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait.
Vraiment de l'eau
que l'on peut pas autre des ruisseaux.
Venez danser dans la rue, ce n'est plus défendu.
C'est la fête, la fête.
En vérité, je vous le dis, c'est le paradis.
C'est la fête. De folie, rien n'est plus pareil.